Bien le bonjour à chacune et à chacun, encore à ceux que j'ai pas salués. Toujours un plaisir d'être avec vous. Ce matin, j'aimerais vous parler de la puissance de la grâce. C'est vrai qu'on a vraiment, on est des graciés en Jésus, de pouvoir le suivre, de pouvoir le connaître aussi. Et à chaque jour qui passe, je me dis, mais quel privilège de connaître ce Seigneur et comme on vient de le faire, d'adorer le Seigneur et de se souvenir eh bien, que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Et pour ça, eh bien, on a besoin de se rendre compte eh bien, pourquoi eh bien, on a peut-être besoin aussi de l'adorer et pour ça, eh bien, de se rendre compte de cette puissance de la grâce. Combien on est des privilégiés. Alors on verra ça au travers du texte d'Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Mais avant de se lancer dans cette étude, j'aimerais vous demander si vous connaissez l'argironnette. Vous avez déjà entendu parler de l'argironnette ? Ah là, je suis spoilé. Tout de suite, on voit de quoi il s'agit. Tout de suite, on voit, vous pouvez deviner. Alors l'argironnette, comme vous le voyez, c'est une charmante petite araignée. Alors fuyez pas tout de suite pour ceux qui ont la phobie des araignées. Peut-être vous avez découvert cette bestiole sur le calendrier de la Bonne Semence qui en parlait le 1er juin 2023. Et j'aime bien des petites illustrations aussi pour introduire aussi mes messages. Et cette araignée des marais vit sous l'eau à la manière d'un scaphandrier. Je ne savais même pas que ça existait, cette bestiole. C'est incroyable, il y a des animaux, on sait même pas qui vivent. Donc elle vit sous l'eau à la manière d'un scaphandrier, en se construisant entre les plantes aquatiques une sorte de cloche à plongeur tissée de soie, imperméabilisée, qu'elle va remplir d'air. Elle vit dans une bulle d'air. Intéressant. Alors la femelle mesure entre 8 à 12 mm, donc c'est pas bien gros. Et le mâle, un petit peu plus gros, entre 9 et 15 mm. Et périodiquement, l'argironnette remonte à la surface pour rapporter de l'oxygène sous forme de petites bulles qu'elle fixe à ses jolis petits poils autour de l'abdomen. Elle s'en sert pour regonfler sa petite maison et sous-marine dans laquelle elle va respirer, chasser, se reproduire, élever sa progéniture. On va voir qu'aujourd'hui, eh bien, en tant que chrétien, eh bien, il nous serait aussi particulièrement utile et avisé de prendre exemple sur cet ingénieux petit animal. On est obligé de vivre, de travailler, d'élever des enfants dans un monde dont l'atmosphère morale est souvent irrespirable, puisqu'elle est conduite par Satan qui est appelé le prince de la puissance de l'air. Et cette petite bête, elle nous donne un exemple où elle est dans un monde qui manifestement lui convient pas trop, où elle peut vivre parce qu'elle a une petite bulle d'air, mais elle doit ressortir de temps en temps pour respirer. Autrement, elle étoufferait, elle serait gazée avec, si son air ne se renouvelait pas. Il nous faut régulièrement faire surface, nous aussi, dans ce monde dans lequel on est appelé à vivre. Renouveler notre provision d'air céleste sans laquelle, eh bien, finalement, on va être asphyxié. On est dans ce monde, mais qui peut parfois nous sembler irrespirable. Et c'est la lecture régulière de la Bible, la prière, la plénitude du Saint-Esprit qui va maintenir aussi notre relation avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus qui est dans le ciel. Que font les cosmonautes ? Les cosmonautes sont appelés à vivre des jours ou des mois en dehors de l'atmosphère terrestre. Tout simplement, ils emportent leur air avec eux pour pouvoir respirer. Autrement, pas d'air, pas de vie. Et c'est ce qu'on a à faire chaque fois eh bien, qu'on se trouve, malgré nous, dans une compagnie douteuse, un environnement hostile à Dieu. On est dans le monde qui n'est peut-être pas forcément adapté à la vie chrétienne. À part si on fait plein de compromis et que finalement on est un petit peu entre deux. Mais Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Donc on est dans le monde, Dieu nous a choisis dans ce monde, mais finalement, on n'est pas du monde. On est appelé à respirer autre chose que l'air que ce monde nous propose. Et il dit même, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais parce que vous n'êtes pas de ce monde, le monde vous déteste. Ça va, il y en a encore qui veulent suivre Jésus ? Être détesté, ça vous convient ? Pas trop, moi j'ai pas envie d'être détesté, je vous le dis tout de suite, je suis pas maso, je préfère qu'on m'applaudisse, qu'on soit sympa avec moi, et je pense qu'on est tous un petit peu comme ça, mais ça nous montre aussi peut-être certains choix à faire. Il y a quelques semaines, c'était la Pentecôte, une fête qui se déroule 50 jours après Pâques, et c'est là que s'est vécue la première effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Pentecôte, c'est aussi un petit peu le jour de la naissance de l'Église, où il y a quelque chose de différent qui est arrivé, la naissance de l'Église. La Pentecôte chrétienne a pu être comprise comme la fête de la promulgation de la loi nouvelle, celle qui est inscrite non plus sur des tables de pierre, comme celle qui a été donnée à Moïse, mais vraiment dans nos cœurs, gravée dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Et c'est plus juste une loi ou quelque chose qui est extérieur à nous, mais qui est appelé à être intérieur, intériorisé. Et Jérémie 31, versets 31 à 33, normalement, il y a ce verset que vous pouvez voir apparaître. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Waouh. C'est plus juste un papier ou des cailloux qui sont gravés avec la loi de Dieu, mais c'est gravé dans notre cœur. Je ne sais pas si vous voyez ce magnifique tatouage sur votre cœur. À l'intérieur. À vrai dire, tout l'intervalle qui sépare Pâques de Pentecôte, qui était considéré par les premiers chrétiens comme un temps de fête, rappelle tout cet ensemble. Et je crois qu'on a besoin de se souvenir aussi de la résurrection du Seigneur. Et pour ressusciter, il avait besoin de mourir avant. Et pourquoi est-il mort ? Pour payer pour nos péchés. Et je développerai ça tout à l'heure. Le temps qu'il a encore passé sur la terre avant de monter, le jour de l'ascension, 40 jours, et qu'il est remonté auprès du Père, et l'attente du Saint-Esprit par les apôtres, encore une dizaine de jours, et finalement l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Dieu désire qu'on connaisse la plénitude dans bien des domaines de la vie spirituelle. Pas juste une petite goutte d'eau comme ça, de temps en temps, mais une plénitude, un jaillissement, un débordement. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie. L'Esprit nous donne la vie. Un petit peu comme cette petite araignée qui va devoir sortir de temps en temps pour respirer. Autrement, sa petite bulle d'air se dégonflerait et puis elle mourrait. L'Esprit nous donne aussi des capacités, des dons. L'Esprit nous donne l'amour dans un monde qui a une bien pâle définition de l'amour selon Dieu aussi. L'Esprit nous change. Et en grec, pneuma, souffle, vent, définit aussi ce que c'est l'esprit, cette respiration. En hébreu, rouar, souffle, respiration, vent ou l'âme encore et d'autres choses. Paul dit dans Éphésiens 5, 18, que vous pouvez lire avec moi, où il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » Soyez remplis de l'esprit, ce n'est pas dit une fois de temps en temps quand vous venez au culte, et qu'il y a un temps de louange où vous êtes saisi par l'action de Dieu, par son esprit, mais soyez remplis de l'esprit, c'est un présent continu. Soyez remplis. Toujours, entretenez-vous. Et ce n'est pas naturel. C'est pas naturel dans nos vies d'être remplis de l'esprit. On a besoin d'entretenir, de travailler. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur. une fois par mois. Ah non, pardon. De tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une recommandation, un bon conseil, mais plus que ça. C'est ce qui nous permet de vivre dans ce monde qui est compliqué, rempli. Entretenez-vous, et on a besoin de s'entretenir. Pas s'entretenir par des critiques, par de la calomnie, de la médisance ou d'autres choses. Ça, le monde nous l'apprend facilement et je crois dès notre naissance, on le sait. Mais s'entretenir en adorant le Seigneur, en rendant toujours grâce à Dieu. On peut toujours voir tout ce qui ne va pas ou se réjouir pour peut-être le petit peu qui va bien. Et bénir Dieu déjà pour ces belles et bonnes choses qu'il nous accorde. Comme ces araignées, on est appelé à appliquer ce conseil. Soyez remplis de l'Esprit, ce souffle, cet air qui va nous permettre de vivre dans ce monde. Alors ce n'est pas un simple conseil, mais vraiment un impératif. Paul nous ordonne d'être continuellement remplis de l'Esprit, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, parce que vous aurez fait le plein aujourd'hui et puis que vous en avez encore assez pour demain, mais toute la semaine, tout le mois, toute l'année, toute notre vie. Et ça, c'est un challenge. Et pour que ça soit rendu possible, eh bien, on a besoin de s'entretenir, de renouveler. Autrement, c'est stagnant ou finalement, ça se dessèche. Comment est-ce qu'on sait qu'on est rempli du Saint-Esprit ? Comment ? Je crois que ça doit se voir, c'est pas juste parce que tout à coup je chante bien à l'église ou que j'ai un service à rendre, non, je pense que ça se voit par un fruit qui se développe, on parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi et bien d'autres choses encore, vous pouvez trouver dans Galates 5. Alors oui, on a besoin de cette plénitude en Christ à entretenir par la louange, par l'intercession. Mais je crois que pour pouvoir louer et intercéder, on a besoin d'une puissante révélation de la grandeur et de la puissance de Dieu. Quelle est l'image que vous avez de Dieu ? Est-ce que c'est juste un petit Dieu à l'image peut-être cette microscopique araignée qui fait 10 millimètres ? Quelle est l'image de Dieu par rapport à vos problèmes que vous avez ? Comment vous voyez Dieu par rapport à vos problèmes ? Et on a besoin, et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous révèle la puissance et la grandeur de Dieu, que ce contact à sa présence. Paul disait au chapitre 1er d'Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 19, que vous pouvez voir avec moi, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. La révélation pour connaître Christ, pour connaître Dieu, pour connaître la puissance de Dieu. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je ne savais pas qu'on avait des yeux sur notre cœur. Apparemment, oui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre entendement, de votre raison. L'Esprit qui est en vous, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Quelle est l'image qu'on a de Dieu ? Quelle est l'image ? Et Paul disait, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Si on n'a pas cette révélation par l'Esprit, finalement, on va toujours courber la tête, toujours se dire qu'on est dans la dèche, toujours se dire que c'est perdu d'avance. Mais si on regarde à celui qui a créé les montagnes, nos problèmes finalement sont moins grands. Ils sont peut-être tout aussi grands à vue humaine, mais quand on regarde depuis le ciel, tout paraît plus petit. Si vous regardez le mont Everest depuis la Lune, j'imagine, ça ne doit pas être bien grand. Par contre, si vous êtes au pied du mont Everest, vous dites « Ouf !» On ne va pas commencer par ça aujourd'hui. Ça ne va pas le faire. Lisons Éphésiens 2, 1 à 10. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. » Wow. Mais ça, c'est ce qu'on était, hein. Et après, il y a un mais. Des fois, on nous dit des trucs, c'était bien et autres, super, c'est à fait, mais. Et là, ouais, bon, ça casse tout ce qui a été dit avant, quoi. Mais là, c'est le contraire. On dit, voilà ce que vous étiez, et il y a un mais positif. Mais, verset 4, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un beau programme. La puissance, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et ce passage d'Éphésiens 2, 1 à 10 nous rappelle cette puissance transformatrice de la grâce de Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie. Se souvenir d'où on vient. Il nous rappelle également l'importance de reconnaître que notre salut est entièrement un don de Dieu reçu par la foi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et ce qu'on voit au verset 1 à 3, c'est l'état de désolation humaine. Là, tu peux remettre la suite. L'état de désolation humaine, le verset 1 à 3 d'Éphésiens 2, vous avez ce texte qui est aussi sous vos yeux. Paul commence en décrivant notre condition avant d'avoir été touché par la grâce de Dieu. Comment on était, comment vous étiez, comment j'étais. Paul nous rappelle qu'on était mort à cause de nos fautes et de nos péchés. Même si on se sentait vivant, eh bien on était complètement mort. On suivait les désirs de notre nature pécheresse, on était sous l'influence de Satan, le prince de la puissance de l'air, et Paul souligne eh bien qu'on était destiné à la colère. C'est ce qu'on était, et j'aime bien parler au passé, destiné à la colère divine. Et ça met en évidence notre incapacité à nous sauver nous-mêmes et notre besoin de la manifestation de la puissance de la grâce de Dieu. Et comme c'est évoqué, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants au travers de ce texte de Jean 15, 19, où Jésus va dire « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui, et vous n'êtes pas du monde ». Je vous ai choisi du milieu du monde et c'est pour ça que le monde vous déteste. Et les versets 1 à 3 d'Éphésiens 2 nous rappellent ce qu'on était. D'où on vient, d'où Jésus nous a tirés finalement, de la boue du péché. Alors attention, on n'est pas appelé à faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas, ou avec le complément de l'apôtre Paul, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Paul dit, vous étiez ça. Mais on ne doit plus être ça. On ne doit plus être ça. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ne s'arrête pas au verset 1 à 3 d'Éphésiens 2. Mais Dieu intervient dans sa grâce. Et là, on voit l'amour et la grâce de Dieu dans la suite des versets 4 à 7. Malgré notre état de désolation, Dieu est riche en compassion. Et il est animé d'un amour infini pour nous par son amour et il a pris l'initiative de nous sauver. Il a pris l'initiative de nous sauver, de nous délivrer. Et Paul souligne que c'est par grâce qu'on est sauvés, pas par nos œuvres. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ et il nous a ressuscités spirituellement et on a été élevés avec lui dans le ciel. Tout ça est rendu possible par le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection victorieuse. Mais ça continue. Maintenant qu'on a été touché par la puissance de la grâce, quel est notre rôle? Et c'est le troisième petit point. La réponse, eh bien, c'est cette manifestation de la puissance de la grâce qui, eh bien, nous dit que c'est par la foi et les œuvres préparées d'avance par Dieu, eh bien, qu'on est appelé à avancer aussi. Paul insiste sur le fait que notre salut est un don gratuit de Dieu. Personne ne peut se prévaloir de l'état dans lequel il se trouve maintenant. Alors oui, on est appelé à s'entretenir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autrement, finalement, on va retomber à ce qu'on était avant et ce qu'on est appelé à ne plus être. On ne peut pas se glorifier de nos propres œuvres car elles ne peuvent pas nous sauver. Mais il y a ces œuvres préparées d'avance qui sont là afin qu'on les pratique parce que désormais on est sauvé et pas pour être sauvé. Paul souligne qu'on a été créé en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Quelles sont les œuvres bonnes que vous êtes appelés à pratiquer, mes frères et sœurs? Quelles sont-elles? Vous pouvez découvrir tout ça dans la lecture de la parole de Dieu en vous laissant aussi toucher par l'action du Saint-Esprit. Notre nouvelle identité en Christ nous appelle à vivre une vie marquée par des actions justes, à vivre une vie qui se tourne aussi vers les autres, appelée à participer à l'œuvre de Dieu dans le monde, à manifester sa grâce, son amour à travers des paroles et à travers nos actes. Alors pour terminer ce message, pour conclure, j'aimerais souligner une fois de plus que sans la manifestation de la toute-puissance de Dieu par son esprit dans nos vies, eh bien on est sans vie, sans souffle. On peut se croire vivant, mais finalement on est mort. Pensez encore à l'histoire des ossements desséchés. Ça se trouve dans le livre de l'Ézéchiel, chapitre 37, dans l'Ancien Testament. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pouvez lire ce texte d'Ézéchiel 37, le noter sur un bout de papier, sur votre smartphone ou que sais-je, retrouver ce texte. Ézéchiel 37, 1 à 14, on ne va pas le lire ce matin, c'est une vision prophétique que Dieu a donnée à Ézéchiel pour encourager les exilés israélites qui étaient en captivité à Babylone. Dans cette vision, Dieu transporte Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements desséchés. C'est assez glauque comme histoire. Hein. Vous imaginez vous retrouvez avec plein d'ossements qui sont par terre, là, complètement dépourvus de vie. Pas très charmant hein, comme endroit. Et Dieu demande à Ézéchiel, c'est dans Ézéchiel 37, verset 3, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Imaginez, vous, à la place d'Ézéchiel, vous voyez un champ là, rempli d'os. Mettez votre prénom. « Est-ce que ces os pourront revivre ?» Alors Ézéchiel, il a répondu sagement. J'aime bien sa réponse. Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Ah, bonne réponse par une question en fait. Et il reconnaît finalement, j'en sais rien, c'est toi qui es Dieu, c'est pas moi. Hein. Et ça c'est pas mal, c'est une bonne attitude. Et au verset 4 d'Ézéchiel 37, Dieu donne à Ézéchiel l'ordre de prophétiser sur ses ossements et de leur annoncer la parole de Dieu. Là, il ne faut pas être trop fatigué ou revenir de je ne sais pas quoi comme soirée. Tu te dis, oula, j'ai besoin de dormir là. Prophétise sur ses ossements. Et Ézéchiel, il obéit, il prophétise à ses ossements, il leur parle, en leur ordonnant aussi à l'esprit des quatre vents de venir. Il prophétise, il y a un bruit, les ossements commencent à se rattacher les uns aux autres, il y a des tendons, de la chair, de la peau qui se forment sur les os, mais il n'y a pas encore le souffle de vie en eux. Alors Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser à nouveau cette fois pour que le souffle de vie entre dans le corps, dans leur corps. C'est juste des cadavres, c'est plus juste des ossements, il y a la peau qui est venue et autres, c'est des cadavres qui sont là par terre, sans vie, sans rien. Comme film d'horreur, hein, c'est assez glauque. Je ne vous encourage pas à voir ce genre de film, mais enfin, c'est assez space comme histoire. Ézéchiel obéit encore une fois et le souffle de vie vient des quatre vents, il anime les corps et il les ramène à la vie. Et les ossements desséchés se transforment en une grande armée vivante et pleine de vie et de force. Dieu explique ensuite la signification de cette vision à Ézéchiel. Les ossements représentent la nation d'Israël qui se trouve en exil, découragée, sans espoir. Nous aussi, parfois, on peut se trouver être découragé, sans espoir, comme dans une terre où on se sent tellement pas en adéquation avec ce qui s'y vit. Et Dieu promet de les ramener de leur captivité, de les restaurer dans leur terre d'origine. Et il dit dans Ézéchiel 37, 14, c'est déjà là, « Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, je vous donnerai du repos sur votre territoire, vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, déclare l'Éternel. » Cette vision des ossements desséchés, c'est un puissant symbole de l'intervention de Dieu, la restauration que Dieu peut accomplir même dans des situations désespérées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des os qui se remettent ensemble, la peau qui pousse, et puis... Moi pas en tout cas. Moi pas, et ça paraît être juste techniquement impossible. Et vous dites ça dans un hôpital, peut-être qu'on va vous dire « Il y a un problème, mon gars. Attention. » Les médecins vont vous dire « C'est juste impossible. » Donc, ce qui est impossible est manifestement possible aussi à Dieu lorsque c'est dans son plan. Et cette vision rappelle aussi aux exilés d'Israël et à nous aujourd'hui eh bien, que Dieu est capable de donner la vie là où il n'y a que mort et désolation. Changer des situations impossibles. Il est capable de restaurer, de donner de l'espoir, de ramener à la vie ce qui semble perdu à jamais. Alors chers amis, chers frères et sœurs, dans Éphésiens 2, 1 à 10 qu'on a lu maintenant ce matin, eh bien, ce texte, l'apôtre Paul nous rappelle la merveilleuse transformation que la puissance de la grâce de Dieu opère dans nos vies. On était morts dans nos péchés. On était. C'est du passé. Christ a payé. Vous n'avez plus à vivre sous le joug de la culpabilité. Christ a payé. On était comme ces os sans le souffle de vie. Mais par son amour infini, Dieu nous a rendus en vie, à la vie en Christ. Deuxième chose qu'on a vue ce matin, c'est qu'on est appelé à répondre à cette grâce par la foi en reconnaissant que notre salut, c'est un don de Dieu. Si vous êtes là, c'est un don de Dieu, c'est la grâce. Troisième chose, notre foi n'est pas appelée à rester passive, mais se manifeste à travers des œuvres bonnes. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Évidemment, pas n'importe quoi, mais pour la gloire de Dieu. Fais-le. Des fois, il y a des gens qui disent « Mais je ne sais pas quel est mon don, je ne sais pas ce qu'il faut faire. » Il y a certainement Dieu qui frappe à la porte de ton cœur et qui te dit « Mais ça, pourquoi personne ne le fait ?» Eh bien, sache que personne, c'est peut-être toi. Des fois, on dit « Pourquoi personne ne le fait ?» Si tu mets « Pourquoi ?» Philippe ne le fait pas. Personne, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi la réponse à ce truc que tu vois et qui est tellement important et que tu pourrais faire. Vous l'aurez compris, impossible dans ce monde compliqué sans Dieu d'influencer qui que ce soit sans le souffle de Dieu manifesté dans nos vies en la personne du Saint-Esprit. On revient à cette petite araignée, tu peux la projeter si elle n'est pas déjà là. Souvenez-vous de l'argironnette. Vous aurez au moins appris un mot ce matin. L'argironnette qui remonte à la surface de l'eau pour rapporter de l'oxygène. Je ne sais pas combien de temps vous pouvez rester sous l'eau sans respirer, enfin en apnée, et tout à coup quand on ressort... J'ai vécu un petit peu un truc comme ça, l'argironnette, parce que j'avais failli me noyer une fois sous l'eau. Et c'est vrai que quand tu ressors, c'est... Puis bon, tu as avalé la tasse, quoi, mais c'est moins agréable. Heureusement, ça s'est bien terminé pour moi, mais parfois on peut être manqué vraiment d'air jusqu'à en perdre la vie. Souvenez-vous de cette petite bébête sous forme de petite bulle fixée à ses poils, au poil de son abdomen. Elle s'en sert pour regonfler sa petite maison sous-marine dans laquelle elle respire. Elle chasse, elle se reproduit, elle élève sa progéniture. Et on est obligé de vivre, de travailler, d'élever des enfants dans un monde dont l'atmosphère morale, comme je l'ai dit, est souvent irrespirable. Mais au lieu de se lamenter sur ce monde, de dire « on court à la ruine », souvenons-nous qu'on peut respirer autre chose que l'air ambiant. Souvenez-vous, souvenez-vous. L'air est peut-être irrespirable là où tu es, là où tu te trouves, et parce qu'il est influencé par le prince de la puissance de l'air, mais on a ce souffle du Saint-Esprit. Et on est déjà appelé à être assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors soyons remplis du Saint-Esprit. Ne nous contentons pas de temps en temps une petite bouffée d'oxygène dans la présence de Dieu. Mais Dieu nous invite à être remplis du Saint-Esprit. Impossible de s'acoquiner avec ce monde parce qu'il est régi par le prince de la puissance de l'air. Mais aujourd'hui déjà, il n'y a pas besoin d'attendre d'être mort. Aujourd'hui déjà, vous pouvez respirer régulièrement l'air du ciel. Aujourd'hui déjà, vous pouvez prendre ces bouffées d'air, prendre de la réserve régulièrement. Régulièrement. Comme cette petite bête, autrement elle va mourir. Et la Sainte Cène qu'on va prendre tout à l'heure, c'est aussi un repas où on s'engage envers Dieu. Et où on se souvient d'où on vient. On était mort, mais Christ a payé. Christ a payé. C'est le rappel de notre salut, du prix payé par Jésus pour nous sauver. Je trouve une description merveilleuse de ce qu'est aussi la Sainte Cène dans 1 Corinthiens 11, 23 à 31. Et je termine avec ça. Je ne sais pas si les musiciens peuvent revenir juste jouer. J'aimerais faire un appel. Je crois que plusieurs ont besoin d'être encouragés, de dire « mais aujourd'hui je vais déjà prendre cette résolution de plus juste respirer l'air pollué de ce monde. Déjà aujourd'hui j'ai pris conscience que je peux respirer autre chose. Déjà aujourd'hui je peux être assis avec Christ dans les lieux célestes. Déjà aujourd'hui. » Dans 1 Corinthiens 11 c'est dit « j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce souvenir aussi, comme Paul le disait, d'où on venait, d'où on a été tiré. En prenant la Sainte Cène, on se souvient aussi. Tout à l'heure, on la prendra. C'est pourquoi celui qui mange et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est ce deuxième point de mon message aussi, où Paul va dire, voilà ce que vous étiez, mais maintenant vous êtes au bénéfice de la grâce. Mais ne méprisons pas cette grâce. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Je crois que ça rejoint aussi le texte que j'ai partagé ce matin d'Éphésiens 2, 1 à 10, où on est appelé à vivre cette transformation. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'on respire un air pur, l'oxygène, l'air du Saint-Esprit, le souffle de vie. Et ce matin, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, tu peux choisir de dire « mais je veux ». Trop souvent, je me suis contenté de quelques bribes d'air, puis je suis comme en asphyxie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'asthme ou d'autres choses, c'est fort peu agréable. Quand tu manques d'air ou que tu crois que tu vas étouffer, je vous ai dit, j'ai failli être noyé une fois, et je vous promets que ce n'est pas une sensation très agréable, mais franchement pas agréable. Et dans ce monde, on est un petit peu comme ça en apnée, et finalement, on arrive à juste faire de la survie, juste de la survie. Et moi, j'aimerais, vous pouvez jouer, juste de la survie et j'aimerais juste laisser l'occasion à celles et ceux qui veulent dire « Mais je veux plus juste me contenter de faire de la survie dans ce monde, mais je veux respirer l'air du ciel. » Plus l'air du prince, la puissance de l'air. À chaque jour qui passe, j'ai envie, même si c'est une minute, deux minutes, je veux respirer l'air du ciel. Il n'y a pas besoin de se fixer des objectifs irréalistes. Il n'y a pas besoin de dire « je vais passer 2 heures chaque jour dans la présence de Dieu à prier, à lire la Bible ». Ça serait, vous allez être frustrés et pas y arriver. Mais si vous vous mettez des objectifs réalistes chaque jour, je ne veux pas qu'il y ait un jour qui passe sans avoir prié, sans avoir élevé le nom de Jésus, sans avoir peut-être noté une bénédiction dont je me souviens, un psaume, un verset, respirer, nourrir mon âme. Et petit à petit, on dit que l'appétit vient en mangeant aussi. Finalement, ça devient un besoin, comme de se réjouir d'un bon repas qu'on va prendre à midi ou le soir ou avec des amis. Se réjouir de ce bon repas que vous prenez dans la présence du Seigneur. La meilleure personne qui puisse vous inviter. La meilleure personne. Alors ce matin, si tu dis, mais j'en ai marre de respirer cet air pollué, et je prends conscience de l'importance de respirer l'air du ciel, j'ai envie. Lève-toi, afin que tu puisses être un témoin, une témoin dans ce monde qui a besoin de toi. Qui a besoin de toi. Le monde a besoin de toi, mais il ne le sait pas. Pour entendre parler de Jésus, pour voir Jésus au travers de toi.